Donc, migration et citoyenneté, c'est les deux termes sur lesquels on m'a demandé de plancher. Moi, je suis donc enseignant-chercheur, je donne des cours à l'université et je fais des recherches dans un laboratoire qui s'appelle Unité de recherche, migration et société. Donc, tous les chercheurs se posent des questions et travaillent sur ce qui est en relation avec, entre les migrations et les sociétés, notamment les questions de citoyenneté, mais aussi de relations interethniques, mais aussi de flux migratoires, dans toute une série de questions que je n'aborderai pas là maintenant, mais j'essaierai de passer assez rapidement sur certaines, de donner un cadre un peu général. Alors ces deux termes, migration et citoyenneté, qu'on entend partout, qu'on lit dans les médias, qu'on entend à la radio tous les jours, ils sont très chargés de clichés et très chargés d'images toutes faites. En France, quand on parle d'immigration, on pense aux personnes qui viennent, aux migrants qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie, quand on est comme moi dans le 13e, qui sont arrivés en France dans les 20 dernières années. On pense même à leurs enfants qui sont nés sur le sol français, qui ne sont pas des migrants d'ailleurs, mais qui sont souvent assimilés à des migrants. On pense pas, ou très peu, ou beaucoup moins, aux Polonais qui sont arrivés en France il y a 60 ans, aux Italiens, aux Portugais, aux Espagnols, qui sont tous arrivés dans les 60 dernières années et qui ont fait leur place dans la société française, une place économique, ils ont un travail, une place sociale, une reconnaissance sociale et une place de citoyen, ils ont une carte de nationalité, d'identité française. Donc, on a tendance à limiter un petit peu ces questions, alors que ces migrations massives d'un pays vers un autre sont très fréquentes depuis au moins le 19e siècle, depuis la Révolution française, même la fin du 18e, depuis que la notion de liberté de mouvement est apparue, et cette notion qui est très moderne, on a l'impression que c'est quelque chose d'ancien, mais pas du tout, la liberté, on ne pouvait pas se déplacer comme on voulait. Et au lieu que ce soit les États qui déplacent les populations, ou les royaumes ou les rois, ce sont, depuis la Révolution française, très schématiquement, ce sont les personnes qui décident de se déplacer dans leur pays, hors de leur pays, et les États essayent de suivre et de contrôler ces déplacements. Donc ils ont inventé des papiers, des documents spécifiques comme les passeports, il y a un livre très intéressant sur l'invention du passeport. Et dans cette conférence, donc, mon objectif, ça va être de relier ces deux termes, mais en prenant un peu de distance peut-être avec la France. Alors j'ai l'habitude de prendre de la distance, puisque je vous le disais, moi je travaille sur le Mexique. Pour moi, c'est une évidence de se poser des questions en dehors de la France et de considérer des éléments qui sont en dehors de la France. Au Mexique, je m'intéresse aussi à la question de ce que c'est qu'être un citoyen mexicain ou un mexicain aux États-Unis, mais aussi un citoyen mexicain au Mexique. Parce que quand on pense citoyenneté, on pense à des migrants qui viennent d'Afrique, d'Asie ou d'ailleurs, qui sont arrivés en France et qui veulent avoir la nationalité française et qui veulent être citoyens français. On a tendance à oublier l'autre partie, c'est que ces gens-là, ils sont déjà citoyens d'un pays et souvent ils ont envie de le rester. En fait, il y a deux facettes à cette question de la citoyenneté. Alors, je vais peut-être commencer par parler des migrations de façon générale. Alors, je sais, un de vos professeurs m'a dit que vous aviez un petit peu travaillé sur le sujet. Donc je vais utiliser le terme, plutôt que de parler des migrants ou d'immigrants, je vais utiliser le terme de migrants. Alors, les émigrants, bon, vous le savez, c'est le migrant, la personne mobile, vue depuis son pays d'origine. L'immigrant, il est vu dans le pays où il réside, qu'il y soit pour 15 jours, un an, 10 ans, 20 ans ou toute sa vie. Et ces deux termes supposent donc une orientation. Donc quand j'utilise le terme migrant, le migrant, je vois une personne mobile qui est en train de circuler, et dont la trajectoire peut être très complexe. Alors, par exemple, le migrant qui part du Gabon, il va d'abord aller au Maroc, où il va peut-être vivre plusieurs années, puis ensuite du Maroc il va aller en France, où il va encore vivre plusieurs mois ou plusieurs années, puis éventuellement il va aller au Canada, où il va encore vivre plusieurs mois, plusieurs années, puis il va revenir en France. Donc si on étudie la trajectoire de ce migrant, on voit qu'il se déplace, qu'il est mobile, et on voit que selon le moment que l'on choisit dans cette trajectoire, on ne va pas avoir exactement la même type d'analyse sur cette personne. D'où l'importance pour les sciences sociales d'utiliser ce terme de migrant pour tenir compte du fait qu'on étudie des gens qui circulent. Et on veut les saisir, comprendre cette circulation, comprendre les personnes dans cette circulation. Alors, très rapidement, je vais passer un petit peu sur des choses assez générales sur l'immigration avant de rentrer dans le sujet citoyenneté. Les migrants, donc ces personnes mobiles, sont prises dans ce qu'on appelle des flux qui les amènent d'un endroit à l'autre. Et ces flux sont majoritairement des flux, dit-on, du sud vers le nord. Alors le sud avec un grand S, c'est entre guillemets, c'est un terme qu'on utilise aujourd'hui, vous l'avez entendu. Avant on disait pays en voie de développement, avant on disait pays sous-développé, bon, on change de terme, ça désigne toujours à peu près la même chose. Vers les pays du nord, ou vers le nord avec un grand N, ce sont les pays riches, ou plus riches que ceux du sud, qui sont des pays dits développés ou en voie de développement, qui sont plus développés, disons, que les autres. On va voir que ces pays du Nord, c'est très relatif. On peut être un migrant sénégalais et partir en Argentine. Donc on est d'un pays du Sud et on va dans un autre pays dit du Sud. Donc on a aussi des flux qui vont de pays en voie de développement vers d'autres pays en voie de développement qui sont à des états différents de développement. Donc cette migration donc, peut se faire dans tous les sens. Actuellement, les migrations ne sont pas uniquement donc, du sud vers le nord, mais elles sont un petit peu dans tous les sens de la planète. Si on fait, j'ai pas de carte, mais si on mettait une carte, on aurait des flèches de tous les côtés, de façon horizontale et verticale. Alors, pourquoi les migrants migrent? Tout ça, c'est très simple. Je commence par un cadre très général. Bon, ils migrent surtout pour des raisons économiques. Bon, la migration, elle est d'abord liée au marché du travail, à la globalisation de ce marché du travail. En France, on embauche des travailleurs agricoles marocains pour venir ramasser les abricots dans le sud de la France. Les Mexicains, eux, ils vont travailler en Alaska. Ils vont pêcher en Alaska. Bon, cela ne veut pas dire que les migrants économiques sont pauvres ou sont très pauvres. Il y en a qui sont pauvres, il y en a beaucoup qui vont ailleurs parce que c'est mieux payé. Il y a des informaticiens originaires d'Inde aux États-Unis, il y en a énormément, les meilleurs informaticiens de la planète sont les Indiens et ils sont un petit peu partout, beaucoup aux États-Unis. On a des footballeurs originaires d'Afrique, d'Amérique latine en Europe, c'est aussi une migration. On a des infirmières espagnoles en France, ça c'est une petite migration, mais c'est aussi une migration. Des médecins qui viennent du monde entier, algériens, qui sont aussi en France. Donc il n'y a pas que, il ne faut pas penser que tous les migrants sont pauvres ou très pauvres. Donc il y a aussi, les migrants migrent aussi pour des raisons politiques. Les guerres, les massacres, les dictatures vont contraindre au départ les opposants au régime, les membres d'un groupe ethnique pour chasser, comme c'est le cas actuellement dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, comme c'est le cas en Chine, comme c'est le cas dans différents pays. Dans ce cas, ces migrants, en général, cherchent à obtenir un statut spécifique, qui est le statut de réfugié, qui est un statut juridique particulier, donc qui n'est pas le même. Ce n'est pas la même chose que la migration économique. Et ce statut va permettre un accès à la citoyenneté par des voies particulières. Et puis il y a aussi d'autres raisons de migrer qu'il ne faut pas oublier et sur lesquelles les chercheurs travaillent beaucoup actuellement. Par exemple, par le goût de l'aventure. Il faut penser que les migrants, souvent, ils ont votre âge. C'est des jeunes qui, comme vous, ont envie de voir le monde et ils peuvent aussi partir pour ces raisons-là. Donc il ne faut pas laisser de côté l'envie de voir du pays qui est partagée par énormément de jeunes et de moins jeunes. Donc il y a tout un tas d'autres raisons qui sont mineures, qui sont moins importantes, moins massives que celles du marché du travail qui fait circuler tous ces gens sur la planète. Donc, ça, ce sont les raisons pour lesquelles les gens partent. Très schématiquement, encore une fois, il y a des travaux qui s'intéressent uniquement aux raisons, il y a des centaines de livres là-dessus. Maintenant, où va-t-on? Pourquoi les États attirent-ils les migrants? Pourquoi les États veulent-ils des migrants? Parce que les États veulent des migrants. Ils ne les refusent pas systématiquement. Alors, ils les veulent pour plusieurs raisons. Pour peupler des territoires vierges, ça c'est une raison qui est moins peut-être courante aujourd'hui, mais qui l'a beaucoup été au XIXe siècle et en partie au XXe siècle, ou des régions difficiles à habiter. Donc je pense à l'Amérique, c'est ce que je connais le mieux, les États-Unis, tout le monde le sait, c'est le XIXe, le Brésil, l'Argentine, le Mexique, ou pour utiliser une force de travail avec des compétences particulières, que ce soit les informaticiens d'Inde ou que ce soit les travailleurs agricoles qui vont ramasser les abricots. Et j'ai mis deux faibles exigences également. Et du côté des États d'origine de ces migrants, alors pourquoi est-ce que certains États vont les empêcher de partir, mais la plupart les laissent partir, donc pour plusieurs raisons, soit pour des raisons politiques, pour se débarrasser de ressortissants qui les dérangent. Alors, au XIXe siècle, ça a été le cas des Irlandais pour le gouvernement anglais, beaucoup. C'est toujours le cas de certaines dictatures qui éloignent leurs opposants potentiels, soit pour obtenir des ressources qui aujourd'hui sont très substantielles. L'argent des migrants est devenu considérable au Mexique, qui est un pays pétrolier, donc il y a l'argent du pétrole, qui est un pays touristique, qui a énormément d'argent du tourisme, l'argent qu'envoient les migrants chez eux est la première source de revenus de l'État. Donc ça se compte en milliards. C'est donc quelque chose de considérable et évidemment les États profitent de cette manne que les migrants envoient chez eux. Alors ils l'envoient à leurs parents, mais ils l'envoient à leur village, ils participent quand il s'agit de construire des routes, des écoles, des églises. Donc tout cet argent, il revient aussi à l'État d'origine. Alors, ce qui se passe, c'est que toutes ces migrations peuvent être provisoires, temporaires, ou elles peuvent durer très longtemps, elles peuvent durer toute une vie. Bon, les migrants, au départ, ils partent en pensant qu'ils vont revenir, dans la plupart des cas, mais souvent, ils s'installent, ils ont des enfants qui s'établissent sur place, et ils y restent très longtemps, si ce n'est jusqu'à la fin de leur jour. Et une fois que les migrants sont établis de façon durable dans un pays, autre que leur pays de naissance, va alors se poser la question d'avoir des facilités dans ce pays, de participer à la vie de ce pays et donc de devenir citoyen de ce nouveau pays. Alors, être citoyen, qu'est-ce que ça signifie? Donc, je vais d'abord parler de la citoyenneté en général, ensuite être citoyen dans le pays d'accueil et ensuite être citoyen dans le pays d'origine. Alors, être citoyen, vous avez dû voir ça dans des cours d'histoire ou de philosophie pour les terminales, donc je vais reprendre des choses que vous avez vues ou que vous verrez avec vos enseignants. Être citoyen, ce terme citoyen, actuellement on l'utilise beaucoup dans les médias. On en parle à propos de tout et de rien, on a des cafés citoyens, des rencontres citoyennes, des actions citoyennes, ça finit par plus vouloir rien dire. Or, on l'utilise presque à la place du mot social, dit Dominique Schnapper, qui est une sociologue. Or, citoyen, ça veut dire, ça a un sens très précis. Donc, pour avoir une définition très générale, j'ai repris la définition de Dominique Schnapper, qui dit, c'est appartenir à une communauté politique autonome, définissant des droits et des devoirs. Ça, c'est une définition vraiment très très large. Mais pour rentrer un petit peu plus dans la précision, être citoyen aujourd'hui, dans une société démocratique moderne, c'est plusieurs choses. C'est être un sujet de droit, des droits civils et des droits politiques. Qu'est-ce que ça veut dire, les droits civils? C'est être libre d'aller et venir, libre de penser ce qu'on veut, libre de dire ce qu'on veut, alors dans certaines limites, hein. Libre de se marier avec qui on veut, libre de vivre où on veut, d'être traité par la justice selon une loi égale pour tous, d'avoir un avocat pour se défendre, c'est tout ça. Des droits politiques, c'est participer, avoir le droit de participer à la vie politique, d'être candidat à des élections pour être maire, député, président de la République, pour toute fonction publique. Alors, être citoyen, c'est donc être un sujet de droit, c'est être aussi c'est avoir aussi une part de ce qu'on appelle la souveraineté politique. La souveraineté politique, c'est l'exercice de l'autorité suprême sur un territoire ou un groupe de personnes. Cette souveraineté politique, dans les démocraties, ce sont en principe les citoyens qui vont l'avoir parce qu'ils choisissent leurs gouvernants, et c'est en principe eux qui sont à la source du pouvoir, qui sont toujours en principe, c'est dit, censés contrôler, choisir leurs gouvernants, les contrôler et les sanctionner, ne serait-ce qu'en ne les élisant pas de nouveau. On le sait bien, on va avoir de nouvelles élections, on voit bien la menace qui est dans l'air. La sanction suprême pour quelqu'un qui se représente, c'est de ne pas être élu. Donc les citoyens sont au fond ceux qui détiennent chacun une part de cette souveraineté politique. Et les citoyens, c'est aussi la citoyenneté, c'est aussi la source du lien social. Être citoyen, c'est être socialement lié aux autres citoyens, parce que dans nos sociétés démocratiques modernes, ce qui lie les hommes entre eux, ce n'est plus le religieux, comme cela a été pendant longtemps, ce n'est plus vraiment non plus la tradition, comme ça l'a été aussi, c'est la politique. C'est le politique et c'est le fait de faire partie de cette communauté politique qui fait de nous des citoyens et qui lie aussi politiquement, mais socialement, les personnes entre elles. En cette conception du citoyen qu'on trouve aujourd'hui dans les sociétés démocratiques modernes, elle existe dans toutes les sociétés démocratiques modernes, mais sous des formes différentes, et qu'on retrouve dans la pratique, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui se passe avec les migrants et comment ces migrants deviennent citoyens ou ne deviennent pas citoyens. Mais la conception qu'on a du citoyen, elle a forcément un effet sur les pratiques des États, sur les politiques, sur les pratiques des personnes. Et cette conception du citoyen, elle a aussi une histoire, que vous avez peut-être apprise là aussi en cours de philosophie ou en cours d'histoire. Donc j'irai assez vite sur ce point. Je vais juste rappeler le début de cette notion de citoyen qui naît à Athènes, à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui se poursuit avec les Romains, à Rome, puis qui se ravive au moment de la Révolution française, 1789, puis celle de 1848, et qui devient cette notion de citoyen moderne qu'on a aujourd'hui. La notion de citoyen, il y a toujours des principes, ou une idée générale qui est la même. Mais il y a des nettes différences selon les lieux et selon les époques. Alors, par exemple, Athènes, on prend toujours Athènes, puisque c'est à Athènes qu'a été inventée l'idée de citoyen. Les Grecs ont inventé l'idée d'une société politique abstraite, qui sont les citoyens, des citoyens qui seraient tous libres et égaux, et qui dirigent ce qu'ils appelaient la polis, la cité, tous ensemble, quel que soit le rang, et l'origine de ces citoyens. Alors attention, quel que soit le rang et l'origine, pour être citoyen à Athènes, il fallait être un homme de sexe masculin, et il fallait être fils ou petit-fils ou arrière-petit-fils de citoyens athéniens. Les femmes ne pouvaient pas être citoyens, les étrangers non plus, les esclaves non plus. C'est une citoyenneté limitée à une partie de la population. Être citoyen à Rome, c'est encore autre chose, c'est avoir des droits spécifiques, droit de se marier, droit de faire du commerce, et toute une série de droits, de conclure des actes juridiques. À Rome, tout passe par le droit. Les politiques romains, les penseurs romains, ils définissent la société politique par le droit. Alors si certains parmi vous ont vu la série Rome, qui est une très bonne série que je vous conseille, on voit très bien comment ces Romains, puisqu'on est avec Pompée, Caton, César, on voit très bien justement comment tout passe par le droit. Ils discutent des lois, ils discutent de droit et de juridique tout le temps. Donc être citoyen à Rome, c'est avoir des droits, et c'est beaucoup plus ouvert qu'à Athènes. Donc à Rome, tous les membres de l'Empire peuvent être citoyens, en principe toujours, mais en tout cas, la citoyenneté n'est pas liée au fait d'être fils de Romain, né à Rome, ou petit-fils de Romain. D'ailleurs, petit à petit, les Romains ont intégré d'autres élites qui venaient de province, et petit à petit, tous les hommes libres de l'Empire romain. Donc c'était beaucoup plus ouvert. Donc ça, c'est deux types de citoyenneté, très anciennes peut-être, mais qui sont au départ de notre notion de citoyenneté. À partir de là, on voit qu'il y a des principes différents, et on peut se demander si ces principes font, s'il y a des principes fondamentaux et s'il y a des traits communs à toutes les sociétés qui sont fondées sur ce principe de la citoyenneté. Donc, qui est citoyen? Qui peut devenir citoyen? Quels migrants peuvent devenir citoyens dans une société donnée, en France par exemple aujourd'hui, ou au Mexique, ou aux États-Unis? Dans quelles conditions peut-on devenir citoyen? On va voir que selon le pays auquel on s'intéresse, ces conditions vont changer. Mais ces conditions ne changent pas au hasard. Tout ça n'est pas complètement aléatoire. Elles changent parce que chaque pays va se construire sa propre conception de ce qu'est l'État, l'État-nation. Depuis le 19e siècle, on a des États-nations pratiquement sur toute la planète. Et donc, chaque État-nation a sa propre conception de ce qu'est le citoyen, c'est-à-dire le sujet national, membre de cet État-nation. Et ces conceptions différentes, elles suivent une logique. Donc, qu'est-ce que c'est que cette logique? Donc, la citoyenneté, elle est basée sur deux types de droits. Alors tout ça c'est un peu abstrait, je vais essayer de vous donner des exemples un peu plus concrets par la suite. Donc elle est basée sur deux types de droits. D'une part, des droits individuels qui vont toucher chacun d'entre nous. Qui est citoyen? Qui peut devenir citoyen? Sous quelles conditions? Ça ce sont les droits individuels de la citoyenneté. Et puis il y a des droits collectif. Alors, ces droits collectifs, je vais revenir sur les droits individuels ensuite, ce sont des droits qu'on appelle souvent aussi culturels, qui permettent l'accès à un groupe particulier, par exemple religieux, par exemple d'une certaine origine, d'accéder en tant que groupe et d'avoir des droits spécifiques en tant que groupe dans un pays donné. Alors, je reviens sur le premier point. Dans le cas des droits individuels, qui est citoyen, qui peut devenir citoyen, comment peut-on devenir citoyen? Ces droits individuels, quels que soient, enfin, dans tous les pays, il y a deux façons, il y a deux critères d'obtenir, de devenir citoyen. Le premier critère, c'est un critère, enfin le premier, un des deux critères, c'est un critère territorial. On peut devenir un citoyen si on est sur le sol, sur le territoire de ce pays. C'est le cas en France, c'est le cas encore aux États-Unis, dans pas mal d'États. Ça n'est pas le cas partout, ça n'est pas le cas en Corée, ça n'est pas le cas au Japon. Donc ça, c'est un critère. L'autre critère, c'est le critère de type ethnique, c'est-à-dire, ou de type socio-culturel. C'est-à-dire qu'il faut être né de parents qui étaient déjà eux-mêmes dans un certain groupe. Au Japon, il faut être né de deux parents qui étaient déjà japonais, ou il faut être né de parents qui étaient coréens en Corée. Ça peut, dans certaines circonstances, ça peut être un grand-parent, ça peut être un arrière-grand-parent. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de Brésiliens qui ont des grands-pères, des arrière-grands-pères japonais, ont pu migrer au Japon et sont reconnus au Japon comme s'ils étaient des Japonais, alors qu'ils sont nés au Brésil, qu'ils parlent brésilien, que leurs parents sont nés au Brésil, que c'est la troisième génération. Donc ça, c'est le deuxième critère, c'est le critère ethnique, qui permet d'accéder à la citoyenneté en tant que personne. Donc ces deux modes d'acquisition, le critère territorial et le critère socioculturel ou ethnique, ce sont des tendances, ce sont des pôles. L'un est plus ouvert que l'autre. Le critère territorial, il est beaucoup plus ouvert puisque il y a de nouvelles personnes qui peuvent sans cesse rentrer dans la citoyenneté, qui peuvent devenir citoyens. Il suffit de naître dans un territoire. Le deuxième critère, de type ethnique, il est beaucoup plus fermé et il limite beaucoup l'inclusion de nouveaux citoyens, donc l'inclusion de migrants. Alors ce sont, encore une fois, je le répète, des tendances générales. Dans la réalité, les États-nations, la France, l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis, le Mexique, vont se situer entre ces entre ces deux types, disons, sur de l'un à l'autre. Alors, la deuxième dimension de la citoyenneté, je ne sais plus, non, ça c'est pas ça, ça c'est la suivante, les droits collectifs et culturels. Donc je disais que il y a deux façons d'accéder à la citoyenneté. Les droits individuels qui est citoyen. Deuxième critère, les droits collectifs et socioculturels, c'est-à-dire l'accès donc à la citoyenneté en tant que groupe. Groupe religieux, les musulmans ou les hindous ou les sikhs. Groupe ethnique, mais en tant que groupe. Les pays permettent deux options. Soit les nouveaux citoyens, qui sont en général des migrants, vont adopter les pratiques sociales, culturelles, locales. C'est le cas en France. C'est-à-dire en France, si vous voulez être français, si vous voulez être citoyen français, vous devez renoncer à votre identité particulière. Vous renoncez à beaucoup de votre identité particulière, c'est-à-dire à l'aspect religieux, mais pas seulement, mais aussi toutes les traditions que les migrants ramènent de chez eux. Et vous devez adopter l'identité républicaine française. Donc le migrant, le nouveau citoyen, dans ce cas-là, doit s'insérer dans un moule qui est le même pour tout le monde. Dans le deuxième cas, il y a d'autres pays où les nouveaux citoyens, donc qui sont souvent des migrants qui deviennent citoyens, peuvent exprimer publiquement leurs spécificités identitaires, leurs identités particulières. C'est le cas en Angleterre, aux Pays-Bas. En Angleterre, les Sikhs, ils peuvent garder leur turban, qui est un signe d'appartenance religieuse, sans aucun problème. C'est la même chose aux Pays-Bas. Donc, dans ce cas-là, les migrants, les nouveaux citoyens, ils présentent des différences culturelles dans des états où l'expression publique de la différence, donc de leur diversité, est possible et elle est même parfois encouragée. Par exemple, aux États-Unis, tout citoyen états-unien a une spécificité socioculturelle qui fait partie de sa citoyenneté états-unienne. Aux États-Unis, c'est le contraire. Il faut avoir une spécificité socioculturelle. Même les Irlandais qui sont arrivés au 19e siècle ou au tout début du 20e, ils continuent à se dire irlandais, à se sentir irlandais, à fêter tous les ans la Saint-Patrick, le patron des Irlandais, même si ça fait 5 générations que leur famille est arrivée. Donc, dans ce cas-là, le nouveau citoyen peut conserver ses particularités, il peut même les cultiver. Là encore, ce sont des tendances générales, c'est-à-dire il n'y a pas d'État qui interdise tout et il n'y a pas d'État qui permette tout. Par exemple, aucun État européen, même ceux qui sont très ouverts à la diversité culturelle comme la Grande-Bretagne, comme l'Angleterre ou comme les Pays-Bas, aucun ne tolère la circoncision féminine, qui est une spécificité ethnique. À l'inverse, aucun pays européen, y compris la France, ne refuse de reconnaître aux élèves qui ne sont pas chrétiens une dispense pour les fêtes religieuses. Tous les élèves, quelle que soit leur religion, peuvent manquer l'école pour une raison religieuse. Donc il y a une reconnaissance même pour la France. Alors, je vois qu'il y a des petits mouvements de ci, de là, ça commence à être dur. Attends, j'ai pas tout à fait fini. Bon, je vais peut-être passer à mon cadre général. Donc, pour essayer de comprendre les principes très généraux de ce qu'est cette citoyenneté. Comment est-ce que les États-nations, comment est-ce que les pays, la France et tous les autres, se situent par rapport à cette conception du citoyen ? Et par rapport à ces deux critères dont je vous ai parlé, qui sont ceux des droits individuels et des droits collectifs. Tout ça, c'est pour essayer d'en tirer des idées générales, un schéma général, et de ne pas rester dans le particulier et dans les petites histoires qui arrivent ou qu'on voit sur les journaux en France tous les jours, mais d'essayer de penser tout ça de façon un petit peu, avec un petit peu de hauteur. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des droits individuels, c'est la ligne horizontale. Donc la ligne horizontale, je ne peux pas montrer, je n'ai pas ce qu'il faut, il y a un petit moins à gauche et un plus à droite, c'est l'axe des droits individuels. Quand on est vers le moins du côté gauche, ça veut dire que il est très difficile pour un migrant de devenir citoyen parce que dans ce pays, la citoyenneté est surtout basée sur des critères ethniques. Comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire des critères du sang, mes parents, mes grands-parents avant moi, ce sont les Japonais qui sont au Brésil depuis 3 générations, par exemple. Donc, à gauche, droit individuel, grande difficulté pour un migrant de devenir citoyen, parce que la citoyenneté est basée sur des critères ethniques. Tout cet axe, ce trait horizontal, des droits individuels aboutit à droite à un petit plus. Donc ce plus, c'est l'autre extrême, c'est la citoyenneté basée sur le critère territorial. Où il est possible de devenir citoyen si on est sur un territoire. Entre les deux, toute la ligne, c'est ce qui va de l'un à l'autre. Donc ces différents degrés de l'acquisition des droits individuels entre l'extrême du critère du sang d'un côté et l'extrême du critère il suffit de naître sur un territoire pour être citoyen. Critère qui disparaît d'ailleurs dans beaucoup de pays, même aux États-Unis aujourd'hui. Donc ce sont deux extrêmes, deux pôles. Dans l'autre sens, dans le sens vertical, on a les droits collectifs. En bas, le moins qu'on ne voit pas bien, on ne le voit pas d'ailleurs, mais le moins, c'est l'impossibilité de conserver ses caractéristiques sociales et culturelles en accédant au statut de citoyen. Ça serait, on ne peut pas montrer son appartenance religieuse, on ne peut pas montrer son appartenance ethnique. Et tout à fait en haut de cet axe qui est vertical, le plus, c'est l'inverse, donc c'est la possibilité de tout conserver en accédant au statut de citoyen, de conserver toutes ces traditions, de s'habiller comme on veut, de suivre toutes les coutumes qu'on veut, même les plus extrêmes. Donc ça, ce sont à nouveau des pôles, des tendances. Les États, tous quels qu'ils soient, se situent dans le croisement de ces deux axes. Mais ils se situent, vous le voyez, à des endroits différents. Donc les petits carrés verts, ce sont des types de conception de la citoyenneté. Comment est-ce que on imagine le citoyen et comment est-ce qu'on va permettre à des migrants de devenir citoyens en fonction de cette façon dont on imagine le citoyen? Donc je vais commencer par la conception ségrégationniste qui est en haut à gauche, qui est très extrême, de la citoyenneté et qui est relativement rare. Donc j'ai mis comme exemple l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Alors l'apartheid, pour vous, c'est l'histoire ancienne. Pour moi, pas vraiment. Mais c'était une situation extrême où, vous le savez, les blancs et les personnes de couleur, quelle que soit la couleur, même les métis, étaient séparés partout. On aurait été ici, dans ce lycée, on aurait mis les blancs de ce côté et tous ceux qui étaient colorés, celui-là. C'est-à-dire qu'il y avait systématiquement dans les bus des séparations, dans les stades de foot, des séparations partout. Donc c'est une conception, c'était, puisque ça a changé. On n'est plus dans l'apartheid, Il y a eu depuis un gouvernement dirigé par Nelson Mandela qui était noir, donc tout ça a beaucoup changé, mais à cette époque-là, il n'y avait donc pas, dans ce type d'État, dans ce type de société, il est impossible de devenir citoyen pour un migrant. Il n'y a pas de droit individuel qui le permette, mais par contre, tous les droits collectifs sont possibles. C'est-à-dire qu'on peut continuer à faire ce qu'on veut en fonction de ses traditions. Mais comme il est quasiment impossible de devenir citoyen pour les migrants, il y a la question du processus d'assimilation ou d'intégration des étrangers, elle ne se pose pas, dans la mesure où le migrant est conçu comme étant un travailleur invité, c'est-à-dire quelqu'un qui vient travailler et qui repart chez lui. Il n'a pas d'accès à la nation. On ne lui impose aucune contrainte culturelle quand il vient. Il peut porter tous les turbans qu'il veut ou tous les voiles qu'il veut, aucun problème, mais il ne peut pas rester. Donc, les migrants peuvent conserver leur spécificité culturelle, mais ils ne peuvent pas s'installer. Donc, c'est une conception très extrême. En dessous, la conception assimilationniste. Alors, je les ai placés, j'ai oublié de le dire pour le ségrégationnisme, mais vous voyez que dans ces cadres, on est entre deux extrêmes. Donc, ségrégationniste, on a les droits individuels moins et les droits collectifs plus. On est dans la case où les droits individuels sont négatifs, les droits collectifs sont positifs. Assimilationniste, on a droits individuels moins, donc très peu de droits individuels, on tend vers le zéro, et droits collectifs, on tend aussi vers le négatif. Dans ce cas-là, alors c'est l'exemple du Japon, c'est l'exemple de la Corée aujourd'hui, bien qu'en Corée il y ait des aménagements très récents, mais ce sont quand même des pays toujours qui... où les droits individuels liés à la citoyenneté sont refusés aux migrants parce que ils ne sont pas descendants de citoyens. C'est-à-dire en Corée, au Japon, il faut être descendant de citoyens pour pouvoir être citoyen. Alors, ensuite, c'est un petit peu différent. Et de l'autre, la conception du sujet national, de l'identité nationale, je mets des guillemets, de la culture nationale, interdit toute expression d'identité particulière. Donc on ne peut pas porter un turban, on ne peut pas porter de voile, tout ça est interdit si ça ne fait pas partie de la culture du pays. Donc on est des deux côtés dans le négatif. Troisième tendance, une tendance que vous connaissez bien, et vous connaissez bien le terme, c'est le terme universaliste, qu'on connaît mieux les deux tendances de droite, l'universalisme et le multiculturalisme. Dans l'universalisme, j'ai mis la France, parce que c'est l'exemple que tout le monde connaît, avec, donc vous le voyez, les droits collectifs tout à fait dans le moins, on est du côté négatif, dans la partie négative des droits collectifs, mais on est dans la partie positive des droits individuels. Ça signifie que, quand on est migrant, l'État français, la nation offre un accès individuel assez facile. On ne naît pas citoyen, mais on peut devenir citoyen. Les migrants peuvent devenir un citoyen assez facilement, on va voir après. Mais par contre, elle n'offre pas d'accès collectif qui autorise l'expression de la différence et qui donnerait des droits collectifs. D'où toutes ces interdictions de signes religieux qui sont très fortes en France, parce que la France a donc cette conception particulière qui propose un accès libre à la citoyenneté grâce au droit du sol, aux gens qui naissent sur le sol sont français, mais qui impose à ses citoyens un mode de comportement unique, quasiment unique, dans l'espace public notamment. Et dernière façon, donc dernière conception de la citoyenneté, la conception multiculturaliste, en l'Angleterre, les Pays-Bas, les États-Unis, le Canada, qui, elle, offre, et dans le plus-plus, vous voyez, les droits individuels, c'est plus, et les droits collectifs, c'est plus, dans la partie positive des deux types de droits, parce que ce sont des pays qui offrent un accès individuel et collectif à la citoyenneté. Et ce sont donc des pays qui ont un régime de citoyenneté très ouvert pour des populations migrantes, puisqu'il est relativement facile d'accéder à la citoyenneté pour tout individu, mais on peut aussi exprimer ses particularités sans contrainte. Même certains pays multiculturalistes comme les Pays-Bas sont allés très loin et ont accordé des droits spécifiques, ont dispensé certaines obligations des migrants, notamment les musulmans, qui aux Pays-Bas ont énormément de possibilités qu'ils n'ont pas ailleurs. Alors ces différences, ça c'est quelque chose de très abstrait. C'est très abstrait, mais ça montre bien qu'il n'y a pas 50 000 façons de se comporter pour un État par rapport à ses migrants et 50 000 façons d'être citoyen. Il y a différentes tendances et après il y a des choix faits par les États-nations à cause de leur histoire, à cause des rapports de force qu'il y a au sein de leur société. Et ces choix sont finalement relativement limités, mais ils entraînent, vous le voyez, toute une série de pratiques politiques. Et c'est donc ces pratiques qu'on va essayer de voir. Pour un migrant, devenir citoyen dans un pays, dans le pays de résidence, dans le pays où il vit, où il travaille, c'est une question. La deuxième question, c'est rester citoyen du pays d'où ils viennent. C'est-à-dire les migrants en général, ils aimeraient avoir deux citoyennetés. Ils ont envie d'être citoyens de deux pays. Celui dans lequel ils vivent, parce que c'est quand même beaucoup plus facile d'accéder à tout, puis ils ont envie eux aussi de dire ce qu'ils pensent, de pouvoir voter. Mais aussi, ils veulent continuer à voter chez eux et à contrôler ce qui se passe dans leur pays d'origine. Donc, ils ont un double problème, et c'est pourquoi migration et citoyenneté, il faut le situer des deux côtés. Alors, d'abord, devenir citoyen dans le pays où on réside. Comment est-ce que cela se passe? Alors, j'ai choisi deux exemples pour donner des informations un petit peu concrètes. Comment devient-on citoyen? Pour être citoyen français et pour être citoyen suisse, on voit déjà que dans la pratique, alors vous vous rappelez, le schéma, la Suisse, elle se trouve dans cette partie-là. C'est un pays où c'est difficile d'avoir accès à la citoyenneté. Donc, ça se voit dans les conditions pour être citoyen suisse. Pour être citoyen français, il faut avoir résidé dans le pays au moins 5 ans. Bon, j'ai pris schématiquement, il y a tout un tas de cas particuliers, si on se marie. J'ai choisi un cas très schématique, hein, parce que je ne peux pas rentrer dans les détails. Donc 5 ans en France, 12 ans au moins dans le pays, et encore il y a d'autres conditions. Il faut avoir résidé un certain nombre d'années dans les cantons, parce qu'en Suisse ce sont les cantons qui vont diriger, qui vont décider. Des frais de dossier d'un côté quasi nuls et de l'autre côté très élevés. Donc il faut avoir beaucoup d'argent pour être citoyen suisse. Et une autre condition, en France, on peut ne pas être indépendant financièrement, c'est-à-dire qu'une femme peut demander sa citoyenneté si c'est son mari qui travaille, alors qu'en Suisse, il faut aussi une indépendance financière. Donc on voit bien que ce qu'on a vu dans la partie conceptuelle, on la retrouve dans la partie pratique. C'est-à-dire, comment peut-on devenir citoyen? Tout de suite, il y a beaucoup plus de barrages en Suisse qu'il y en a en France. Je ne dis pas qu'en France, c'est parfait. Hein. Je dis juste que c'est plus facile d'être citoyen en France que d'être citoyen en Suisse, parce que ça n'est pas la même image qu'on se fait du citoyen. Alors, cet accès à la citoyenneté, je ne vais pas la rentrer dans le détail de comment on devient citoyen. Donc, il y a des différentes conditions à remplir, mais il y a pas mal de schémas, il y a pas mal de possibilités. Une fois, je saute les étapes, une fois qu'on a réussi, que le migrant a rempli toutes les conditions, qu'il a réussi à remplir tous les papiers, ce qui prend énormément de temps, l'administration française étant très difficile, très lente, très compliquée, très rigide. Mais il y a quand même régulièrement des migrants qui arrivent à obtenir leur carte d'identité française et qui sont naturalisés, c'est-à-dire qu'ils deviennent citoyens français. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, cet accès à la citoyenneté, qui est un papier, un décret que le préfet va donner aux migrants, il est de plus en plus ritualisé. En France, alors qu'il l'était déjà dans d'autres pays comme les États-Unis, le Canada, qui jouaient beaucoup là-dessus, mais il n'était pas en France, mais il l'est en France aujourd'hui. Donc il y a, au moment de la remise des documents de naturalisation, au moment de la remise de la carte d'identité, enfin de ce décret, il y a toute une série de nouveaux rites inventés par les préfectures, avec deux dimensions. Une dimension pratique, c'est-à-dire on remet aux migrants des documents officiels, en toute une série de documents, soit des guides de formation à la citoyenneté, des guides pratiques, une plaquette qui l'informe sur l'organisation des pouvoirs publics en France, des choses simples dont il aura besoin s'il veut aller s'acheter une voiture ou s'il veut ou s'acheter une maison plutôt. Et il y a aussi donc des plaquettes, des guides, des documents officiels. Et il y a aussi toute une partie symbolique dans ces cérémonies, dans cette remise du décret de naturalisation, où on utilise les symboles de la République, ou les symboles qui correspondent à chaque État, à chaque pays. Alors aux États-Unis, c'est le drapeau, parce que aux États-Unis, ce qui compte, c'est le drapeau. Le migrant qui devient citoyen doit jurer allégeance au drapeau américain. C'est ce qu'on voit écrit sur ce petit document. Et ça, c'est la cérémonie où on jure d'être loyal au drapeau américain. On ne le fait pas en France. En France, on a... Alors, je vais sauter tout ça. Ça, c'est une... En France, on a d'autres symboles. Ça n'est pas tant le symbole du drapeau que celui de la Déclaration des droits de l'homme ou l'hymne national. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai pris sur Internet. C'est une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française du département de l'Aude qui a eu lieu en novembre dernier. Alors, on raconte ce qui s'est passé, comment le préfet, qui est une dame, a fait un petit discours. Ensuite, on a passé un film, Devenir français, réalisé par le ministère de l'Immigration. Et ensuite, chaque nouveau citoyen a reçu un livret d'accueil avec une lettre du président de la République, une plaquette d'information sur l'organisation des pouvoirs publics et sur les droits et les devoirs du citoyen, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est un symbole pour la France, c'est comme le drapeau, en quelque sorte. Des extraits de la Constitution de la Ve République, le texte de l'hymne national, ça aussi c'est un peu comme le drapeau, dans la Marseillaise, et bien sûr la pièce maîtresse de cette cérémonie qui est le décret de naturalisation et les pièces d'état civil qui vont avec, la carte d'identité par exemple. Et à la fin donc on chante l'hymne national. Donc c'est une cérémonie, alors il y a des photos, ça c'est Madame le Préfet qui remet le livret d'accueil à une migrante nouvellement citoyenne, et ça ce sont tous les migrants qui étaient accueillis pour cette cérémonie de citoyenneté française du mois de novembre dernier. Donc c'est assez nouveau, c'est quelque chose qui apparaît dans les années 2000, cette ritualisation de la citoyenneté. Alors, maintenant, deuxième partie, je ne sais pas si je dépasse mon temps ou pas, mais c'est bientôt fini. Je disais tout à l'heure que les migrants, eux, veulent être citoyens dans deux pays différents, au moins, et peut-être dans plus si possible. Dans celui d'origine et dans celui d'accueil. Alors je dis dans plus parce qu'un même migrant peut avoir plusieurs pays d'accueil et peut vivre dans trois pays à la fois, ou peut-être même plus. dans le pays d'origine, dans le pays d'origine, ça n'est pas tout à fait les mêmes questions qui se posent. Alors, de façon assez schématique, je vais essayer de déterminer les attitudes des pays envers leurs migrants, les migrants qui partent de chez eux. Alors, de la même façon que les États-nations, que les pays vont définir des comportements à l'égard des étrangers sur leur sol, les États vont aussi définir des comportements à l'égard de leurs propres citoyens à l'étranger. Et on a différents comportements qui peuvent aller très très variables dans le temps, qui peuvent aller de l'expulsion pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses, de la vente, ça s'est vu à l'époque de la traite des Noirs, c'était les royaumes africains qui vendaient eux-mêmes leurs propres citoyens, donc ça c'est très extrême, à des régimes totalitaires qui au contraire empêchent leurs ressortissants de partir. Donc on a là aussi toute une échelle, toute une graduation d'attitude, de comportement des États qui vont de l'expulsion au contraire à la rétention obligatoire. Entre ces deux extrêmes se situent toutes les positions moins radicales où les États laissent partir leurs ressortissants ou même parfois ils les aident à partir. Mais ils les considèrent parfois de façon positive, parfois de façon négative et tout ça va évoluer dans le temps. Donc certains États considèrent les migrants qui s'en vont, qui quittent le territoire comme des traîtres. Des gens qui sont partis, qui ont laissé tomber le pays. Et dans ce cas-là, il y a une forte hostilité envers ces migrants. Et l'État refuse qu'ils aient une double nationalité, et donc la double citoyenneté, refuse qu'ils soient citoyens de notre pays. S'ils veulent rester citoyens de leur pays, il faut qu'ils continuent à l'être. Je connais bien ce cas-là, puisqu'au Mexique, pendant très longtemps, c'était la position de l'État mexicain jusqu'aux années 90 qui refusait de reconnaître la double nationalité, qui traitait les migrants comme des traîtres qui avaient fui la patrie et qui avaient laissé tomber leur pays. Mais on a complètement changé d'attitude dans les 20 dernières années. Le Mexique et beaucoup d'autres pays. Il y a aujourd'hui très peu de pays qui considèrent les migrants comme des traîtres. Et au contraire, on les considère même comme des héros, les nouveaux héros du développement qui apportent des ressources à la nation. Je vous disais tout à l'heure que ce sont des milliards d'euros et de dollars. Et les États ont changé de comportement, surtout dans les 20 dernières années. Donc beaucoup d'États ont changé. Je pense au Mexique, je pense au Maroc, je pense au Mali, je pense aux Philippines, d'où viennent beaucoup de migrants en France, aux États-Unis et ailleurs. Et le fait que ces migrants envoient beaucoup d'argent, les États vont les utiliser, vont récupérer cet argent et vont en quelque sorte les récompenser les migrants en leur accordant des avantages. Et notamment, un des premiers avantages que demandent les migrants, c'est donc la double nationalité et la double citoyenneté. Alors, au Mexique, c'est très récent, la double citoyenneté, la double nationalité, ça date de 1998, donc c'est pas très vieux, parce que l'État essaye de récupérer l'argent des migrants et lui offre à la fois la double nationalité, mais aussi des facilités pour investir au Mexique, par exemple. Alors, dans certains cas, il y a des États comme les Philippines qui, eux, vont même aider à la migration et vont produire, en quelque sorte, des migrants. Les Philippines, il y a des marins, les hommes sont des marins, et les femmes sont spécialisées dans ce qu'on appelle aujourd'hui le CARE, C-A-R-E, c'est-à-dire les soins à la personne. Et l'État philippin oriente l'éducation des jeunes vers ces deux filières. Donc il oriente très nettement les jeunes de son pays vers la migration, puisqu'il fabrique des marins qui ensuite vont se louer, qui ne vont pas être des marins philippins, ils vont être dans tous les bateaux du monde, et des femmes qui vont être des infirmières, qui vont s'occuper des personnes âgées dans tous les pays du monde. Donc vous voyez que les États ont des positions très différentes envers leurs migrants, mais que la tendance actuelle, elle est plutôt justement de favoriser la migration, et donc de favoriser le bien-être, disons, des migrants, leur satisfaction psychologique, et de les garder citoyens, de les autoriser à avoir une autre citoyenneté. Alors pour terminer, je dirais que la citoyenneté, c'est, on l'a vu, elle dépend beaucoup des périodes, elle dépend des États, parce que c'est quelque chose qui n'est pas immuable. La citoyenneté, elle est l'enjeu d'un rapport de force entre des personnes et entre des groupes minoritaires, majoritaires. Les groupes majoritaires ont une position de force dans un pays, qui n'ont pas envie que l'image du sujet national soit changée, qui n'ont pas envie que cette image de citoyen soit modifiée. Et donc, ils n'ont pas envie que la citoyenneté soit redéfinie parce qu'ils perdraient leur position de force. Donc, la citoyenneté, elle se construit, je le disais tout à l'heure, dans les relations entre les groupes sociaux. Elle se nourrit des tensions entre les groupes pour déterminer des critères. Parce que ces critères, ils ne viennent pas du ciel, ils ne tombent pas du ciel, ils sont fabriqués par les politiques. Tout ça, c'est décidé. À tout moment, il y a des lois, il y a des décrets qui modifient les lois précédentes et qui modifient l'image de la citoyenneté. Par exemple, il y a actuellement en France, aux États-Unis, je disais le droit du sol, d'accord, mais ce droit du sol, il est de plus en plus entamé. C'est de plus en plus difficile, il y a de plus en plus de restrictions. Il ne suffit plus, surtout aux États-Unis à l'heure actuelle, il ne suffit pas de naître aux États-Unis pour être états-unien. Il y a des États où ça n'est plus suffisant. Donc, cette citoyenneté, elle n'est pas fixe. Tout est dynamique, tout bouge, et dans tous les pays, elle peut changer à tout instant. Alors, ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a des demandes de la part des migrants une fois installés dans les pays, mais aussi de la part d'autres acteurs, d'élargissement de la citoyenneté. Des élargissements dans tous les sens, je dirais, soit au-delà de la nation, au niveau supranational, donc on parle de citoyenneté européenne, alors on n'est plus seulement dans le lien migration-citoyenneté. En deçà de la nation aussi, on parle de citoyenneté ethnique. Dans les pays d'origine des migrants, on a aussi, les pays doivent aussi faire face à des demandes du même type d'élargissement de leurs propres ressortissants, mais dans ce cas-là, il s'agit d'accorder une autre citoyenneté à leurs propres ressortissants. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, je ne sais pas si c'était très simple. J'ai essayé, je suis prête à répondre à toutes vos questions, peut-être plus concrètes, pour mettre un petit peu de chair sur les...